Alors nous sommes le dimanche matin à Angoulême avec le Flûtiste, qui est un jeune label français. Nous sommes ici avec deux auteurs, nous sommes avec Léa et
Antoine.
C'est assez étonnant de découvrir quelque chose de nouveau, de ce point nouveau sur l'avant de la bulle New York. On est plutôt habitué à trouver des gens qu'on a déjà vus les années précédentes, ou même si on n'a pas été leur parler, on voit plus ou moins à quoi ils ressemblent. Mais ici, on se retrouve avec un jeune label qui a déjà 8 numéros d'une revue assez épaisse sur la table. Alors du coup, ça nous donne envie d'aller demander, mais qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Antoine, c'est toi qui vas répondre.
Eh ben, nous, on est des gens qui sont encore ou qui viennent de sortir d'écoles d'art diverses un peu partout en France. Nous sommes trois ou quatre à la base du projet et on essaye de fédérer du coup tout un tas de gens qui ont envie de pratiquer la bande dessinée sans avoir forcément d'espace pour le diffuser, avec des contraintes et une certaine forme de jeu pour leur donner envie de faire des choses.
Généralement, quand on trouve une revue sur un stand et que ce sont de jeunes auteurs, on peut supposer qu'il y a un lieu qui se trouve derrière, une école bien précise comme on a pu avoir avec Strasbourg par exemple. Ici, ça, c'était visiblement pas le cas. Il y avait un rapport assez controversé à l'école que vous avez fait. Donc, est-ce que tu peux un peu parler de ça?
Oui, bien sûr. L'école, ça a été l'endroit où on s'est rencontrés avec c'est bizarre de dire ça, mais les fondateurs. Et c'est vraiment ce qui nous a permis, du fait qu'on se voyait tous les jours, de réfléchir à ça et de commencer à bosser ensemble. Mais l'école ne nous a jamais cooptés, on n'a jamais eu de suivi ou quoi que ce soit par rapport à la revue. Et du coup, c'est plus un moyen de s'en détacher assez rapidement, de se détacher de l'école et du coup des contraintes qu'on avait à l'école, pour du coup aller rencontrer des gens ailleurs, dans d'autres écoles, mais aussi ailleurs de manière plus générale.
Ton collègue me racontait que même l'accès à l'atelier de sérigraphie était barré, que vous avez dû faire ça chez les parents d'un d'entre vous.
Ah oui, l'atelier de sérigraphie, il était spécialisé pour le textile et on avait essayé de choper les clés, impossible, jamais. Au départ, on sérigraphiait dans l'école sur des tables normales et on se faisait poursuivre parce qu'on empruntait du matériel à droite à gauche, donc on a bricolé le matériel et on fait toujours ça dans le salon de mes parents quand ils veulent bien nous laisser un peu de place. C'est du sport.
Toi Léa, tu viens de rejoindre ici avec le numéro 8, et comment est-ce que tu as rejoint cette équipe?
Alors j'ai envoyé ma première participation au Flûtiste pour le numéro 3, donc j'en avais déjà entendu parler par du bouche à oreille, j'ai des amis qui y participaient, donc j'ai envoyé un brouillon pour montrer ce que j'avais l'intention d'envoyer, et il a été publié tel quel, et depuis je suis dans tous les numéros et vraiment je m'éclate.
Alors on parle ici de 8 numéros, quelle est la fréquence et quand est-ce que ça a démarré exactement?
Ça a démarré en janvier 2012, et de 2012 à 2013 en fait, ça s'appelait Le Petit Flûtiste Illustré, c'était des petits A5 agrafés assez moches, je crois qu'on peut le dire. Du coup ceux-là on va les enterrer dans une caisse bientôt je pense, tous les cartons qui nous restent. Et à partir de début 2013, on s'est mis à plus bosser ce projet et à aller plus loin dans ce qu'on pouvait faire, que ce soit au niveau des contraintes de scénario ou de l'objet en lui-même. On ne voulait pas faire qu'un seul numéro par an parce qu'on pensait que ce n'était pas assez. Et donc on fait deux numéros par an depuis donc 2013, mais c'est peut-être un peu trop aussi.
Oui, il faut savoir que vous n'êtes pas tous engagés dans des études de bande dessinée, en fait presque pas, parce que je sais qu'il y a un typographe.
Ah oui, Tom est typographe, Pierre fait du cinéma d'animation et moi je fais du graphisme. Et du coup la BD c'est un à côté pour l'instant plus qu'une perspective de carrière. Après pour Léa, je ne sais pas.
La bande dessinée, oui, j'ai toujours voulu en faire, ça sera mon métier. Du coup pour le dernier numéro, disons on a vraiment réfléchi à ce que c'était une bande dessinée collective et c'était vraiment une très bonne expérience pour ça.
Oui, parce que quand tu dis que c'est faire deux collectifs par an, c'est presque trop, il faut savoir qu'on est en face d'objets qui ont une très grosse pagination, on est au-delà de 250, je ne sais pas combien de pages fait ce numéro 8.
Celui-là, il fait 144 pages et on était monté deux numéros avant à 200 et quelques pages. Pas dans la douleur, mais on essaye de proposer quelque chose à lire et pas juste à voir. C'est ça qui est intéressant, je trouve aussi. Et qu'il faut pas perdre en fait dans la bande dessinée. En fait, jusqu'au numéro avant, on était, on faisait des appels à participation sur internet et les gens du coup nous envoyaient par rapport au thème les planches. Donc quand on avait des contraintes de scénario assez fortes, c'était très dur de trouver des systèmes pour que tout le monde puisse participer, mais du coup on doit sélectionner après. Mais sur ce numéro-là, en fait, le scénario était tellement... passé tellement en premier qu'on a travaillé avec des gens avec qui on avait déjà travaillé sur les numéros d'avant. Et on a fait un appel à participation interne parmi tous les gens qu'on avait publiés. Et les gens qu'on a choisis, au final, c'était parce qu'ils avaient envie de raconter cette histoire qu'on leur avait proposée. Et aussi parce qu'ils avaient une diversité ils font tous des choses complètement différentes au niveau du dessin, et c'est justement avoir cette différence de dessin qui amène des différences de points de vue dans les histoires qui était assez intéressante.
On est parti de l'idée que plusieurs faits pouvaient être interprétés de façon différente, et du coup le livre est séparé en deux parties. Il y a deux villes qui ont deux visions du monde très opposées. Il y en a une qui est plutôt humaniste, l'autre qui est plutôt individualiste. On a essayé de faire en sorte qu'on puisse comprendre les motivations de chaque ville, donc chaque partie. Et du coup on a une trame narrative qui est à peu près la même pour les deux parties. Il y a une partie qui se lit dans la lecture française et l'autre partie dans la lecture japonaise. Et du coup, on a une même histoire qui se retrouve dans les deux parties, mais elle est fragmentée en petits bouts. Et de chaque côté de l'histoire, il y a une vision différente des mêmes faits et qui a été interprétée par les auteurs. Donc on a segmenté le scénario en 9 parties pour chaque ville, ce qui donne 18 parties. Et donc on a demandé aux auteurs de s'imprégner de l'univers d'une ville, de récupérer des personnages d'autres histoires. On a essayé de simplifier au maximum la ligne scénaristique de la partie pour laquelle on leur a laissé le choix. Et c'est vrai que toutes ces contraintes ont été très compliquées à mettre en place, à communiquer, à expliquer. C'était vraiment beaucoup de travail, mais je trouve que le résultat est vraiment convaincant. Et même quand on écrit l'histoire à deux dans un café et qu'au final on les distribue aux auteurs et qu'on voit comment ils s'en emparent, c'est vraiment génial comme travail. Au début, tout est pacifique de chaque côté des deux villes. Il va y avoir une série de quiproquos, de malentendus qui vont mener à une tension finale. Et on n'a pas voulu représenter la guerre dans ce livre, mais tout tend vers la guerre. Et ce qui nous a intéressé vraiment, c'est de voir comment on est mené à une guerre alors que chaque partie a des raisons de ne pas se la faire ou de se la faire en fonction de comment il interprète avec ses valeurs tous les événements qui se produisent. Et donc la guerre se produit au milieu du livre, donc à la fin des deux parties. Et on n'a pas voulu donner de fin, mais on a imprimé deux posters sérigraphiés qu'on a mis aléatoirement dans chaque livre. Et selon qu'on a l'un ou l'autre dans un livre, c'est l'une ou l'autre des villes qui gagne et qui prend le dessus.
Est-ce que vous pensez que c'est une époque qui est riche par rapport à la réflexion politique?
Dans la production en bande dessinée?
Dans le monde en tant que tel,
non. Enfin, moi, je pense que vraiment, on essaie de nous faire des résumés de faits médiatiques qu'on essaie d'apparenter à de la politique, mais qu'on perd du coup, c'est le grand récit politique qu'avaient, sans faire le c'était mieux avant, les générations d'avant. Mais du coup, c'est un peu notre rôle de s'y remettre, de mettre les mains dans le cambouis et de pouvoir transmettre à des gens des idées. Ça fait un peu de langue de bois, mais du mieux vivre ensemble.
Oui, moi je suis très branchée politique. Enfin, j'essaye de donner vraiment un sens qui revient souvent sur la politique. Du coup, à mes histoires, peut-être que ça s'est ressenti dedans. Mais moi je trouve que c'est riche dans le sens où maintenant, comme tout le monde est connecté entre toutes les parties, il y a des guerres qui sont dans certains pays dans le monde et qui ont des répercussions partout ailleurs. Et je pense qu'on s'est peut-être un peu inspiré des grands récits historiques qu'il y avait avant. Par exemple, ces histoires de guerre froide où il y avait un camp et un autre qui essayaient d'interpréter et de faire une sorte de propagande en fait, autour de faits historiques qui ont réellement existé et qui ont une interprétation différente. Donc ça a peut-être autant une valeur historique que politique dans la réflexion du scénario.
Si je peux ajouter quelque chose, Léa fait aussi des notes de blog sur, par exemple, sur les dernières élections. Juste après, tu avais fait une assez longue BD sur pourquoi les gens n'allaient pas voter et pourquoi il fallait aller voter.
Ou non. Oui, alors...
Mal, mais tu peux résumer mieux que moi, je pense.
Oui, alors j'ai un blog qui porte le doux nom de la grand-mère à moustache. et du coup, oui, j'essaye de temps en temps de faire des réflexions sur ce qui se passe. Donc là, c'était pendant l'entre-deux-tours. Je m'attendais à ce qu'il y ait un gros score pour l'abstention. Oups. Et du coup, j'ai vraiment voulu réagir par rapport à ça. Alors moi, je déteste faire des leçons de morale. Moi, je donne mon avis en essayant d'être assez neutre et pas agressif parce que j'aimerais vraiment que ça lance les gens dans la discussion. Du coup, j'ai fait un long article sur l'abstention et ce que j'en pensais. Moi, j'en étais arrivée à la conclusion qu'il fallait voter pour faire changer... Enfin, bon, après, c'est moi qui le pense, mais j'avais dit oui, il faut voter, pas forcément pour les grands partis qu'on nous propose, parce qu'on a envie que ça change un peu, surtout quand on est jeune, qu'on voit que c'est toujours les mêmes partis qui restent en place au pouvoir. J'avais encouragé les gens à proposer des idées et à voter pour elles et à les soutenir, parce que je pense que ça sera plus efficace en tout cas que l'abstention. Et ça a été très intéressant parce que justement grâce au blog, les gens ont beaucoup réagi, j'ai eu beaucoup de retours sur ça. C'était vraiment très riche dans le débat, et c'est toujours un peu stressant quand on fait ce genre d'article engagé, parce que oui, on s'engage et on s'expose à la critique, et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien, et ça fait aussi un peu peur. Voilà.
Vous me disiez hier que ce numéro 8 marque la fin d'un cycle quelque part. Là, vous êtes en train de quitter doucement l'école, vous êtes en train d'entamer d'autres études. Et donc, le petit groupe de base a peut-être tendance à s'y fracter. D'autre part, tu disais que c'était une charge assez lourde de faire un collectif. Et donc, vous allez y prendre là une pause. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la flûtiste ?
On va prendre une pause pour pouvoir se reconcentrer un peu sur les bases de ce qu'on veut faire. On a eu une longue discussion avec Léa hier. Comment on veut continuer ? Avec quoi et pourquoi et aussi avec qui, enfin toutes les questions en fait. Et je pense que là, ce temps de pause, de réflexion, ça va être vraiment un moyen de se recentrer sur l'essentiel et vraiment enlever tout ce qui est en trop dans ce qu'on produit. Et peut-être du coup, je sais pas, enfin on a plein d'idées pour l'instant, et on a trop d'idées même. Pour l'instant, mais parce que c'est vraiment à chaud pendant le festival, et on va, faut qu'on se ressente sur peut-être une seule chose, mais une seule chose bien, une seule chose mieux, et une chose un peu différente de ce qu'on fait maintenant, plus souple et qui permette toujours d'expérimenter et d'avoir une discussion entre les auteurs, mais qui propose aussi une forme de débat au public, au lecteur, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Oui, enfin, le fait que du coup sur la revue, pour parler un peu économie, on paye pas nos auteurs parce que on peut pas, très clairement. Et du coup, on a décidé pour aussi offrir un autre espace à certains auteurs avec qui on aime bien bosser et qui vont un peu plus loin aussi que ce qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils nous proposent pour la revue. On met en place des petites collections de livres à côté pour de petits zines agrafés où ces auteurs peuvent, comme Léa par exemple, peuvent exercer tout leur art, on va dire. Et du coup, on aimerait aussi peut-être tendre plus vers ça, à faire des plus petits livres mieux fabriqués en petite quantité avec des auteurs qui trouvent de la matière pour produire.
Oui, on parlait d'un collectif. On le sait, un collectif, c'est toujours compliqué à monter. Il faut arriver à synchroniser tout le monde. C'est un objet difficile à vendre parce que les gens disent « Ah tiens, j'aime bien cette bande dessinée, mais pas tellement celle-là. » Est-ce que vous comptez à l'avenir continuer ce mode du collectif, ou est-ce que vous allez tout doucement verser vers des monographies ?
Je pense que c'est le plus intéressant, c'est de faire les deux. Et enfin, du coup, sur peut-être un rythme moins soutenu ou plus souple sur la revue. Mais c'est intéressant de faire les deux parce que ça permet du coup d'inviter des auteurs avec qui on n'a pas bossé avant, et commencer toujours par « Tiens, on va faire un bouquin, on ne se connaît pas, salut, nous on est ci, vous êtes ça. » C'est un peu bizarre, c'est un peu frontal comme rencontre, alors que la revue, c'est une manière plus douce d'amener, je pense, d'amener au travail mutuel. Il faut trouver des modalités qui permettent de faire ça plus simplement que ce qu'on a fait là. Parce que moi je suis très content du résultat, c'est le numéro de la revue dont je suis le plus content, mais épuisé. Surtout après 4 jours d'Angoulême, sous la pluie, et avec à faire la fête, voilà, sans rentrer trop dans les détails.
Toi, Léa, tu viens de rejoindre le groupe ici, tu as dit en proposant d'abord un boulot, puis ici en t'investissant plus dans le collectif. Est-ce que tu vas rejoindre cette petite équipe de mecs?
Ah, j'aimerais bien. moi, ce qui m'avait marqué au final sur le stand du flûtiste, c'est vrai qu'ils ont tous la même forme. Ils sont tous rectangulaires et ils sont tous assez épais, donc c'est des beaux bouquins. Après, je pense que, comme j'ai dit, moi, travail de Lou Bapo, donc un travail qui est assez proche de Lou Lipo dans la... la conceptualisation du livre, et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans la forme, dans le contenu, en tout cas peut-être aller plus loin dans ce genre de projet. Enfin, j'ai jamais, on va dire, joué à l'éditrice jusque-là, mais là c'était vraiment super de mener un projet et de laisser de la place aux autres. Au final, quand on est auteur, on est vraiment assez égocentré. on fait beaucoup de réflexions sur soi, sur ce qui se passe dans notre tête, et voilà, de faire un travail collectif, de faire des expériences, on va dire, de laboratoire avec d'autres auteurs, c'était vraiment super. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rejoindre l'équipe. Après, c'est vrai que là, je rejoins le staff pour le dernier numéro, et l'équipe de base va faire une pause. Je sais pas ce qu'il en est, mais...
Nous, on est pour, hein, de toute façon. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous sur ce numéro. Et s'ouvrir à d'autres gens, c'est le meilleur moyen d'aller plus loin.
Alors, tout ça est super mignon. Et comment est-ce qu'on peut suivre votre actualité dans les prochains mois? Comment est-ce qu'on peut acheter Flûtiste?
On a un site internet depuis très récemment qui est simple à retenir, c'est flûtiste.fr, flûtiste sans S au bout. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Flûtiste. Donc il y a d'autres pages Facebook où vraiment c'est des gens qui jouent de la flûte traversière, donc vous trompez pas. Si vous voulez lire de la BD, vous trouverez, je pense que c'est assez facile. Et Léa du coup a son blog. Et on va probablement continuer à faire des festivals, même si on fait une pause dans la production, on va un peu aller voir ailleurs les gens qui veulent bien nous voir.